Chapitre 9. Mon père fut successivement interrogé par plusieurs de ces messieurs qui se postaient devant lui ventre à ventre avec un air de confidence et à qui il semblait répondre évasivement en levant les sourcils très haut, dirigeant loin son regard et écartant les deux bras. Et la double ride profonde qu'il portait à la racine du nez se creusait. On lui parlait de la maison Colliveau. J'aperçus M. Clérambourg, toujours informé de tout, qui opposait à une question sans doute indiscrète une main rigide, tendue en écran, tandis qu'il fermait les yeux dans l'attitude du génie gardant le secret de la tombe. M. Plancoulaine et le neveu Moche s'imposaient une réserve dont ma famille s'effraya. Pourtant, un signe de bon augure était que le courtois n'avait pas paru. Qu'il eût mis ses gants dans sa cour, c'était possible. Mais qu'il se dirigeât vers ici, en somme, cela demeurait incertain. Ce qu'il y avait d'incontestable, c'est que d'autres personnes que nous sentaient une atmosphère orageuse et, en le faisant remarquer, propageaient le trouble autour d'elle. Petite maman nous dit plus tard qu'usant de la grande liberté que sa beauté et son talent de musicienne lui avaient acquise près du maître, elle s'était levée pour aller lui demander tout net si l'on allait ou non voir Courtois. Mais mon père l'avait retenu. « Non, non, j'aurai l'air de fuir devant mon confrère. Je veux tenir jusqu'au bout. Attendons. » En attendant, je m'étais créé, moi aussi, mon angoisse. Voilà, je n'avais pas dit bonjour à Marguerite Charmaison. Je voulais aller lui dire bonjour, je ne le faisais pas. Et à mesure que je tardais, ma démarche devenait plus difficile parce que je devais me faire pardonner, outre ma gaucherie, mon impolitesse. Marguerite était passée près de moi sans me voir, mais peut-être m'avait-elle vue depuis. Peut-être aussi me méprisait-elle comme trop petit. Elle était si jolie et si grande. Mon désarroi s'embrouillait davantage. Je me disais, il est trop tard maintenant. Je n'ai plus qu'un parti à prendre, c'est de me dissimuler, de m'anéantir. Il faut qu'elle ne me sache pas ici. La prochaine fois que je la rencontrerai, je marcherai vers elle tout droit, comme si je ne l'avais pas vue depuis 4 ans. Je m'étais caché derrière Madame Capdevielle, de qui le dos formait un large abri. Une idée me vint. Elle n'était pas belle. Je désirais que ce que redoutait mon père se produisît, qu'il y eût un esclandre à propos de la maison Colliveau, que l'on se fâchât et que nous disparussions d'ici à jamais. Cela, oui, certes, plutôt que d'être un niais aux yeux de Marguerite Charmaison. Sans bouger, j'apercevais les genoux de Marguerite Charmaison et, plus haut, un bout de nœud bleu parti de son corsage. J'observais qu'elle ne parlait pas. Elle, si bavarde autrefois. Pour qu'elle fût si différente, que lui était-il arrivé? Puis je pensais que si rien de grave n'éclatait avant 4 heures, j'étais perdu, car à l'heure du résiné, il me faudrait coûte que coûte me faire reconnaître de Marguerite. Alors je fus envahi par une de ces grandes tristesses qu'on ne ressent plus après ces enfantillages qu'à l'âge d'homme, lorsque la seconde timidité, celle de l'amour, vous stupéfie. Et dans ma détresse, mes yeux étaient attirés par le mesquin spectacle de l'aisselle de Madame Capdevielle, qui, petit à petit, se mouillait. De telles misères se mêlent souvent aux préoccupations les plus dignes. Madame Capdevielle avait un corsage blanc à vignettes. Ces vignettes étaient, si je me souviens bien, de minuscules gerbes de blé jaune entremêlées à des faucilles violacées. Au travers du tissu se discernait le bord brodé de la chemise et la peau nue formant vallée au milieu. Une petite odeur de caoutchouc avait appelé mon attention stupide vers le dessous du gros bras, matelassé insuffisamment. Au-dessous du matelas, une source s'épandait parmi les faucilles et les gerbes de blé, et je considérais d'un œil de poule le progrès lent mais perpétuel de l'onde qui noyait toutes les 5 minutes une nouvelle gerbe, une nouvelle faucille. Tout à coup, d'un coin du salon, partit comme un cyclone la farandole des 5 petites Capdevielle. Elle se tenait par la main et glissait avec une vitesse d'ouragan entre les sièges, semant le bruit et la terreur. M. Plancoulaine était indulgent à ses sautes de jeunesse et les encourageait d'un rire d'ogre dont le retentissement était plus fort que celui de nos cris aigus. Je vis venir la trombe. Elle m'emporta comme un fétu. Elle en emporta d'autres. Je gambadais, je marchais sur les pieds des dames qui disaient nous trouver charmants. Je manifestais une grande allégresse de me sentir arracher les bras. J'ouvrais la bouche et je hurlais en passant devant Marguerite Charmaison. Mes relations avec Marguerite Charmaison étaient brisées. Ou bien elle était devenue trop sérieuse et trop belle pour se souvenir de moi, ou bien, si elle m'avait reconnue, elle n'oublierait plus qu'elle m'avait vu ouvrir la bouche en imbécile au milieu d'une farandole de gamines. J'allais tomber sur les genoux de ma grand-mère où j'espérais enfouir ma confusion. Mais je n'y avais pas eu le temps de souffler que petite maman, inspirée par le charivari, s'asseyait au piano et entamait une bacchanale d'Offenbach d'un rythme infernal qui relevait les petites capes de vielle et 10 autres enfants. Ceux-ci m'enlevaient de nouveau et voilà la farandole relancée à travers les groupes. J'y perdais la tête quand soudain nous nous arrêtons comme si la foudre frappait l'un de nous. Petite maman a suspendu son jeu. Tous les visages sont interdits. Et j'aperçois M. Plancoulen debout, plus rouge qu'après son déjeuner, frappant du pied le sol et répétant d'un ton de tonnerre « Nom d'une boutique, on ne s'entend plus ici !» Jamais M. Plancoulen ne s'opposait au jeu des enfants. Il était quinteux, autoritaire et terrible, mais la jeunesse le métamorphosait en agneau. Oh oh, cette fois, il se passait quelque chose. Petite maman quittait le piano et M. Plancoulen ne s'excusait pas de l'avoir interrompu. Tous les enfants se réfugiaient dans le giron de leurs parents. Un grand silence se suivit. C'est par ces mouvements d'autocrate que M. Plancoulen domptait tout le monde. Les plus déterminés de ces messieurs n'étaient que roqués auprès de ce tyran de village. Aussitôt, telle une sœur de charité après le combat, Mme Plancoulen vint droit à nous, nous cajola, mon père, sa femme, mes grands-parents et moi, nous dit que l'heure du goûter approchait et qu'en raison de la chaleur, elle avait fait préparer aujourd'hui des citronnades. Elle s'ingéniait à pallier les vivacités de son mari et elle avait un tel don de panser les blessures qu'il en pouvait infliger presque impunément. Mais en nous secourant, ne disait-elle pas à tous, avec candeur ou malignité d'hôtesse, « Ce sont ceux-là que le trait a frappés ?»